le Mag, une émission proposée par le groupe Isimo sur Radio Imo, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro de Isimo, le mag, la vision du réseau Isimo, les enjeux de l'immobilier, les solutions existantes ou prévisionnelles, les vérités du marché, les sujets polémiques, voilà tout ce qu'on va aborder au cours de cette émission, de cette série d'émissions. Et pour démarrer ce premier numéro, j'ai le plaisir d'accueillir Renaud Cormier. Bonjour Renaud.
Bonjour.
Vous êtes président de l'AFIL, c'est l'Association française pour l'investissement locatif, et vous êtes également directeur général de Téséis.
Tout à fait, c'est parfait.
Nous serons également en compagnie de Marion Suquet. Bonjour Marion.
Bonjour.
Secrétaire générale et directrice Isimo Invest, vice-présidente de l'AFIL. Merci à vous d'être là. Alors Marion, juste en préambule, hein, puisque c'est notre première, à quoi va ressembler cette émission ?
Alors en fait, dans cette émission, nous allons évoquer les enjeux de l'immobilier pour Isimo, les solutions existantes ou prévisionnelles, le marché. Et à travers ce nouveau format, nous allons donner la parole à des experts, mais également vous donner la parole à travers des témoignages, des retours d'expérience pour être au cœur des préoccupations de nos clients.
Un petit mot quand même sur Isimo, on peut resituer.
Isimo, donc on existe depuis plus de 20 ans maintenant. On travaille à travers toute la France puisqu'on a à peu près une vingtaine d'implantations. Le siège est à Brest, mais le siège commercial est à Paris. On est filiale à 100% du groupe Crédit Mutuel Arkéa et ce depuis 2017 maintenant. Et donc on est à peu près 120 collaborateurs répartis sur toute la France.
Et voilà donc des spécialistes à nos côtés. Alors justement, pour décrypter et parcourir ces différentes thématiques, on va démarrer tout de suite avec des spécialistes là aussi, l'AFIL, l'Association française pour l'investissement locatif. On est ravis d'accueillir le président qui était autrefois vice-président, c'est Renaud Cormier. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelle est la mission de l'AFIL ?
Oh, tout à fait, oui, effectivement. Président tout récent, je salue au passage Philippe Rochereau avec qui nous avons fondé l'AFIL il y a maintenant un peu plus de 5 ans. Ça permettra de faire le lien avec votre question. L'AFIL a été créée fort du constat que dans le marché de l'immobilier, la partie distribution et en particulier l'investissement locatif n'était pas représentée. Et en fonction des périodes, les problématiques qui peuvent se poser ne sont pas nécessairement les mêmes pour les acteurs qu'ils produisent, qui sont majoritairement représentés par la FPI. Ceux qui gèrent, qui sont plutôt représentés par la FNAIM ou l'UNIS. L'immobilier était représenté pour partie au sein des associations qui représentaient les conseillers en gestion de patrimoine. Mais la distribution aujourd'hui d'immobilier neuf est beaucoup plus large que ça. Il nous a paru indispensable du coup d'avoir une association professionnelle qui puisse représenter et faire entendre ces acteurs qui sont au plus près des clients et donc le plus en amont des problématiques généralement.
Alors justement, cette association française pour l'investissement locatif, j'ai envie de vous demander Renaud, combien de divisions, combien de membres, est-ce que c'est des petits, des gros, qu'est-ce que ça fédère aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, elle fédère la quasi-totalité des acteurs nationaux, on va dire des acteurs des plateformes ou des réseaux nationaux, mais là la particularité aussi de fédérer beaucoup d'acteurs de plus petite taille, que ce soit des réseaux de commercialisation, que ce soit des CGP indépendants. Aujourd'hui, c'est un marché qui s'est développé et qui a mûri depuis une vingtaine d'années et qui est représenté de manière très hétérogène, mais c'est aussi ce qui fait sa force.
Justement, on va se pencher sur ce marché de l'immobilier locatif. On le sait, on est dans une période un petit peu, qui a été euphorique malgré la crise sanitaire. Est-ce qu'il y a un engouement toujours présent des Français pour construire leur patrimoine, pour investir pour demain, peut-être pour leur retraite, etc.
Alors c'est sans doute le paradoxe de la période actuelle, c'est que l'immobilier n'a jamais été aussi populaire.
Oui.
Alors, je ne sais pas si on peut dire jamais été aussi populaire, et toujours aussi populaire. Les Français continuent de plébisciter l'immobilier comme un placement qu'ils perçoivent comme un placement refuge pour eux. C'est un des seuls investissements qu'un particulier puisse faire avec la possibilité de s'endetter, donc avec un effet de levier, ce qui notamment pour créer, constituer un patrimoine est quand même un outil formidable. Simplement, le marché est maintenant depuis plus de 5 ans en baisse en termes de volume, donc en termes d'offres disponibles. Là, je parle du marché du neuf. Et ça commence à devenir compliqué pour des particuliers qui souhaitent investir, de trouver des biens des biens à leurs pieds, chaussures à leurs pieds en tout cas, notamment en termes de prix de vente, puisque on est sur des volumes qui n'ont cessé de baisser. et les perspectives ne sont pas très encourageantes.
Marion Suquet, vous qui êtes également au cœur du marché, de ce marché de l'investissement locatif, est-ce que ce sont des tendances que vous observez? Est-ce qu'il y a une, peut-être à l'heure où effectivement il y a de moins en moins de logements, en tout cas de neufs, qui sortent, il y a une, peut-être une frustration de la part de certains, de la profession ou de certains clients?
Nous, on est commercialisateur pour le compte des promoteurs, donc forcément, on est touché de plein fouet par ce manque d'offres et on le ressent, hein, puisque effectivement, nos commerciaux et notre force commerciale est en peine en ce moment pour avoir de l'offre et forcément, pas d'offres. On ne satisfait pas de manière très correcte nos clients.
Ouais, et on voit des prix évidemment qui grimpent.
Oui.
Ça fait partie aussi des problématiques de cette inflation qui n'en finit pas et c'est parti pour durer. On va voir bien évidemment. Alors, dans l'investissement locatif, on le sait, plusieurs dispositifs coexistent. On en sort régulièrement avec les noms en général des ministres des logements. On a eu le Pinel, on a eu le 2 Normandie. On a des dispositifs comme le louer meublé non professionnel, le fameux LMNP, la nue propriété. Autant de façons différentes d'optimiser quand même son investissement, sa fiscalité, tout en investissant dans la pierre. Première question, Renaud Cormier, c'est pour vous, c'est un petit peu plus technique. On voit par exemple que le Pinel est en train de changer, il va peut-être donner lieu à un Pinel amélioré, un Pinel plus. Qu'est-ce que ça risque de changer?
Alors je ne dirais pas un Pinel amélioré, effectivement Pinel plus ou Super Pinel.
C'est vendu comme ça par les
C'est vendu publics. Comme ça, le décret date de mars, c'est une idée qui date quand même de 2019, donc... pré-crise, et je mets un S à crise, hein, donc c'est une idée qui était avant le Covid, qui était avant que la problématique d'offres ne se renforce, qui était avant les problématiques d'inflation liées à la crise ukrainienne ou à la dernière vague Covid en Chine. Et donc l'idée était, partait d'un bon sentiment, de flécher les investisseurs vers des produits perçus comme plus vertueux. Alors il y avait des sujets qui étaient des sujets de zonage. In fine, le décret qui est paru en mars flèche principalement ou souhaite principalement flécher ses investisseurs vers des logements plus qualitatifs. En fait, c'est finalement le confort qu'il a emporté. Et donc, on a principalement le fait d'avoir des surfaces minimales pour les logements qui représentent une hausse d'environ 10% des surfaces par rapport à ce qu'on constate, nous, sur le marché depuis 5 ou 10 ans. C'est également le fait que les logements soient tous traversants dès l'instant où on a un T3 ou plus grand. Et également, ça réglemente les surfaces extérieures. Donc, autant de sujets qui, à la fois, contraignent la construction, qui vont rajouter une couche, d'inflation sur les prix de revient. Oui. On sait que le prix de revient, c'est la moitié à peu près d'un prix de vente. Et puis, le paradoxe, c'est à l'heure où on nous parle de ne pas artificialiser, à l'heure où on nous dit que le logement représente, je crois, 18% des émissions carbone, on va nous demander de commercialiser, on va demander aux promoteurs de faire des logements plus grands, ayant donc par définition une empreinte au sol plus importante. Espèce de paradoxe.
Ouais, alors justement, surface minimale, des logements traversants, ces surfaces extérieures également minimales, autant de mesures finalement inflationnistes. Justement, vous le soulignez, ce paradoxe, quelle est la voie médiane entre une offre qui diminue, on a la pression de la ZAN par exemple, zéro artificialisation nette, et une demande croissante de la part du public, les Français veulent se loger.
Alors tout à fait, et puis il faut avoir en tête que la rareté de l'offre dans le neuf a des effets inflationnistes aussi sur l'ancien, c'est théorie économique de base, hein. Moi il y en a plus c'est cher. Et donc, alors nous en tant que représentants des distributeurs, on s'attelle surtout à essayer d'identifier ce qui va permettre de recréer de la solvabilité chez les clients, et ce qui est certain c'est que ça n'est pas en prenant des mesures inflationnistes qu'on va le faire. Donc il faut traiter ce sujet, il faut traiter le sujet aussi du crédit, puisqu'aujourd'hui une des difficultés c'est que le taux d'usure est trop bas, ce qui fait que des clients avec des dossiers parfaitement sains ne peuvent pas emprunter aujourd'hui parce que les conditions appliquées par les banquiers, les assureurs viennent tamponner ce taux d'usure. Pour ce qui est de la production, là je dirais c'est plutôt la FPI aujourd'hui qui est à l'œuvre, il faut à la fois relancer les volumes et de l'autre permettre aux investisseurs qui restent motivés d'investir. Donc je dirais la première chose à faire c'est peut-être de conserver ce qui fonctionne et peut-être d'éviter de prendre des mesures qui à l'évidence avec le recul que l'on a aujourd'hui étaient des fausses bonnes idées.
Ouais, Marion Suquet, vous partagez ce constat, hein, voilà, cette voie médiane quand même difficile à trouver, puisqu'on peut imaginer que les clients, c'est très bien d'avoir effectivement des surfaces minimales, du logement traversant, des réglementations énergétiques de plus en plus draconiennes. Le problème, c'est que ça coûte cher. Au final, les gens ils veulent se loger peut-être avec les mêmes conditions qu'auparavant.
Alors nous, on est beaucoup sur une clientèle d'investisseurs, mais forcément, les investisseurs, ça va faire augmenter le prix du logement. Donc, de toute façon, avec ce dont Renaud parlait, des banques qui prêtent plus difficilement aujourd'hui, forcément, ça va être beaucoup plus compliqué pour les investisseurs. Et donc, à pari coché pour Izimo. De vendre de manière correcte et avec un train qui était aussi fort que celui qu'on a pu connaître auparavant.
Bien sûr. Va-t-on trouver des programmes abordables, du coup, avec des coûts de la construction qui explosent ? On en a parlé un petit peu. Des réglementations énergétiques, environnementales, de plus en plus draconiennes. On a l'impression que là aussi, ça va être compliqué.
Alors, toute chose égale, par ailleurs, c'est déjà compliqué. Effectivement, les mesures qui sont dans les tuyaux, mais qui ne sont pas, qui sont réversibles, c'est l'avantage. Donc, nous avons jusqu'au 31 décembre de cette année pour justement essayer de faire entendre nos voix là-dessus. Et c'est ce sur quoi la FIL travaille. Ensuite, aujourd'hui, la solution, c'est de trouver des opérations qui sont des bons compromis. Puisqu'effectivement, il faut trouver aujourd'hui à être sur un emplacement qui soit qualitatif, qui reste sur des zones tendues, parce que ça reste la base si on parle d'investissement locatif. Il faut que vous soyez sur un secteur où il y a une demande de logement. Et c'est d'ailleurs toute la logique de la Pinel, hein, c'est de favoriser le logement intermédiaire sur des zones tendues. Et donc, il faut aujourd'hui trouver un compromis entre peut-être une envie historique de faire un investissement au moins sur le papier le plus patrimonial possible, mais pour autant conserver du rendement parce que les taux d'intérêt remontent. Donc, il faut quand même avoir un rendement locatif qui soit suffisant.
Bien sûr. Voilà, après, avec une vraie question, hein, c'est la question du prix. Est-ce qu'on achète finalement au bon prix avec, vous l'avez dit, des investisseurs qui doivent aussi s'y retrouver, d'autant qu'il y a des conditions aussi de loyer. On ne peut pas faire n'importe quoi. Là aussi, vis-à-vis du nouveau gouvernement là, qui est en train de se mettre en place, évidemment, il faudra attendre la fin des législatives. Est-ce qu'il y a des sujets prioritaires ? Est-ce que, vous avez l'oreille des ministères en place ?
Alors, l'oreille, je ne sais pas. On leur a écrit déjà. La difficulté, effectivement, c'est que pour le moment, les interlocuteurs ne sont pas désignés, même si des conseillers ont été nommés sur le sujet logement, l'un auprès de la présidence de la République et puis l'un auprès d'Amélie de Montchanin, qui est le ministre de tutelle. Pour le moment, c'est clair qu'il est difficile de réellement travailler. On peut simplement signaler. Non, le sujet...
Vous pouvez émettre des propositions.
On peut émettre des propositions. Le sujet de fond aujourd'hui, c'est déjà... de trouver des solutions pour relancer la production, parce que ça n'est que par le volume qu'on trouvera des solutions durables. Ensuite, à la marge, on peut éviter, ce que j'évoquais tout à l'heure, de prendre des nouveaux dispositifs ou des nouvelles dispositions qui vont aggraver la situation. Donc je dirais que ça, c'est les deux axes principaux. Et ensuite, évidemment, notamment autour du sujet de la Pinel, hein, qui va perdurer au-delà du 31 décembre 2022, mais avec des taux pour le moment un peu rogné. On doit, nous, en tant qu'association professionnelle spécialiste de ces sujets-là, proposer aussi des axes d'amélioration. Et le principal axe d'amélioration qu'on a aujourd'hui sur la Pinel, ça reste le zonage qui peut toujours être un peu plus affiné. Ça a été très vertueux de le resserrer. Simplement, aujourd'hui, on a quatre zones qui finalement recouvrent des secteurs qui sont quand même assez hétérogènes, notamment en zone B1. Et ça vaudrait sans doute le coup d'affûter un peu plus le crayon. C'est l'avantage d'avoir de l'expérience sur ce type de dispositif. Ils sont toujours un peu améliorables.
Marion Sucre, on a l'impression que c'est vrai que le Pinel dans l'État fonctionne plutôt bien. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas ne toucher à rien, un espèce de moratoire sur ce qui, en attendant peut-être qu'on y voit un peu plus clair, que la situation s'améliore ?
Ben moi, je pense que si. Oui, je pense que oui. Le Pinel amélioré dont il parle, je pense que c'est pas une bonne chose pour le secteur. Ça va pas, en tout cas, améliorer véritablement les choses. Et quoi qu'il en soit, on n'aura pas plus d'offres avec ce Pinel amélioré. Donc, moi, je pense qu'on devrait rester pour l'instant sur cette Pinel qui a marché et qui continue à très bien fonctionner. Peut-être effectivement faire un moratoire, mais on attend, on est dans l'attente aussi de ces législatives qui vont quand même être un tournant aussi en fonction du vote, de ce que sera demain un éventuel ministère du logement.
Tiens, justement, c'est question d'actu, vous avez raison. Est-ce que ça vous a choqué qu'il n'y ait pas peut-être dans cette première mouture du gouvernement un interlocuteur privilégié comme on avait eu ? On a eu M. Dormandy, on a eu Mme Wargon. Pas de ministre du logement dans cette nouvelle équipe ? peut-être qu'il va arriver. Ça vous surprendrait qu'il n'y en ait pas.
Bon, historiquement, il n'y a quasiment jamais de ministre du logement. Il y a au mieux un ou une secrétaire d'État. Ouais. Déjà, on dit long sur le sujet, alors que le logement représente à peu près 30% ou plus de 30% du budget des ménages. Donc, quand on parle d'inflation, de ne pas avoir ce sujet au milieu de la table, ça peut surprendre. Donc, ça nous a pas choqué, malheureusement, on n'est pas étonné. On s'attendait à ce qu'il y ait un gouvernement plutôt resserré hein, en attendant les législatives, ce qui a été fait. Maintenant, je voudrais rajouter une chose sur la super-Pinel que nous n'avons pas évoquée tout à l'heure, c'est que dans le même temps, les loyers sont les mêmes. Et donc, pour l'investisseur final, il va avoir un logement plus cher avec un rendement plus faible. Et ce sur quoi nous travaillons, en attendant d'avoir des interlocuteurs, et la FIL a mené ce sujet en commanditant une étude auprès du cabinet PrimeView pour justement regarder aujourd'hui la rentabilité pour l'investisseur final d'une opération Pinel au travers d'une distribution directe, promoteur, distributeur, client. Et puis, au départ, on voulait la comparer avec une des idées du gouvernement depuis maintenant quelques années dans les tuyaux, qui serait de confier le logement intermédiaire à des institutionnels financiers. Et donc, au départ, l'idée était vraiment de comparer le rendement pour un investisseur qui investirait dans une OPCI immobilière versus un investissement en immobilier direct. Les résultats de l'étude vont sortir là sur le mois de juin et ils seront extrêmement intéressants. Mais un des points très importants qui ressort, c'est que le rendement pour un investisseur aujourd'hui reste compétitif, mais on est limite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans effet de levier et sans incitation fiscale, il va bientôt mieux valoir investir dans une obligation d'État qui aujourd'hui propose des taux plus élevés que dans de l'immobilier, ce qui est quand même un paradoxe.
Avec tous les risques que ça
a. Avec tous les risques que ça a de réécarter encore les investisseurs de l'immobilier. Et donc les Français ont envie de faire de l'immobilier. La France a besoin de construire des logements et on est en train de prendre des mesures qui vont finir par détourner les investisseurs particuliers du logement. Il ne semble pas que l'État ait les moyens de se substituer aujourd'hui aux particuliers.
Alors que finalement, cet échange, finalement, carotte fiscale versus investissement dans l'immobilier qui crée des logements en plus à des prix encadrés, on va dire, pour le coup, c'est d'actualité là aussi, c'était plutôt un bon deal, entre guillemets.
C'est un deal qui est triplement...
À condition d'avoir un bon zonage, ce qui a...
Dans les conditions d'une bonne définition du dispositif, cela permet de créer des logements intermédiaires accessibles pour des locataires. Les locataires sont donc gagnants. Les investisseurs, si c'est rentable, lorsque l'on met bout à bout le rendement locatif, l'effet de levier et une incitation fiscale, ils le sont aussi. Et l'État n'est pas en capacité aujourd'hui d'investir les volumes qui sont empruntés par les particuliers pour construire ce logement.
Bien sûr.
Donc c'est gagnant pour tout le monde.
D'autant qu'on a aussi des dispositifs qui n'ont pas toujours super bien marché, on va dire ça comme ça. Je pense à l'échec relatif du Deux Normandie. Est-ce qu'il y aurait, pour que ça fonctionne, pour que ça prenne des... correctif à votre avis, à votre sens à apporter, ou est-ce que voilà, c'est peut-être mal piloté ou mal calibré à la base ?
De Normandie est un sujet compliqué. Pour rappel, hein, c'est un équivalent de la Pinel, mais sur des villes de plus petite taille et sur une logique de rénovation.
En cœur de ville.
Au départ, en cœur de ville, et le dispositif a été élargi, ce qui fait que dans certains cas, vous êtes quand même sur l'ensemble des communes. Ça ne paraît pas idiot, et ce d'autant plus qu'il y a un mouvement aujourd'hui d'un certain nombre de nos concitoyens qui souhaitent aller vivre dans des villes moyennes. La difficulté pour le moment, c'est que les opérateurs n'ont pas trouvé l'équation économique et que la rénovation aujourd'hui de l'ancien est très coûteuse. Donc vous avez quelques acteurs qui réussissent à sortir des opérations, j'ai envie de dire de manière un peu artisanale, mais on n'a pas trouvé aujourd'hui comment industrialiser, ce qui fait qu'il y a très peu d'offres en Deux-Normandie. Alors que par rapport aux logiques de non-artificialisation, par rapport aux logiques de réduction des émissions carbone, sur le papier, rénover l'ancien est une excellente idée. Et là, pour le coup, le potentiel sur le marché est très important.
Sauf que, on y retourne, hein, prix des matériaux, trouver même des artisans avant de les payer d'ailleurs, ça devient extrêmement compliqué. Et du coup, l'ancien rénové peut même coûter dans certaines zones plus cher que... finalement, acheter en neuf.
Oui, c'est ce que je voulais dire. Hein, quand je disais que l'équation économique ne fonctionne pas, c'est que vous vous retrouvez à rénover de l'ancien et vous vous retrouvez avec des prix de sortie qui sont supérieurs à des prix du neuf. Il ne faut pas demander à un investisseur. Les investisseurs peuvent, dans certains cas, vouloir faire une bonne action, mais on ne le fera pas en volume, ça n'a pas de sens.
Pour terminer et ouvrir un petit peu le débat, dans le contexte actuel, on le décrit, hein, pas forcément très rose, inflation, guerre, pouvoir d'achat en berne, comment vous voyez évoluer ce marché de l'investissement locatif ?
Alors, je pense, comme toujours, on est sur des sujets quand même qui sont des sujets qui ont des impacts très forts en termes économiques, qui ont des impacts très forts en termes d'emploi. Hein. On rappelle que la construction est un des secteurs sur lequel vous êtes sur des emplois non qualifiés, donc c'est extrêmement important de maintenir ces activités-là. Donc la situation va finir par monter au cerveau de ceux qui nous gouvernent et on trouvera des solutions. La seule chose, c'est dans combien de temps le fera-t-on ? À chaque fois, on a eu tendance à avoir une, deux manœuvres de voile de retard sur ces dispositifs-là. Donc on espère, et c'est notre rôle en tant qu'association professionnelle, se faire entendre plus rapidement pour éviter de repartir d'une situation trop dégradée.
D'où l'intérêt en tant que président de la FIL et vice-présidente de la FIL aussi de porter, hein, d'amener aussi des solutions, de dire, de faire ces remontées de terrain. Pour demain, proposer effectivement des plans d'action.
C'est le but de la FIL, ouais. C'est qu'on puisse faire entendre notre voix et faire entendre notre voix aussi à côté de la FPI, etc., des différentes associations. Et je pense qu'on en avait besoin de cette association-là, et puis surtout que cette association revive, parce que il y a eu un petit moment avec le Covid, on a été un peu tous pris sur d'autres sujets. Bien sûr. Je pense que là, avec le nouveau gouvernement qui va se mettre en place, entre autres, je pense que c'est vraiment important. Ouais.
Voilà l'Association française pour l'investissement locatif, donc la FIL en ordre de bataille, on l'a en mode combat, on l'a compris. Un grand merci à vous deux, hein, pour nous avoir expliqué les enjeux de cet investissement locatif, les pistes aussi de solutions. Et gageons que vous aurez toute l'attention du prochain gouvernement. Un grand merci à Renaud Cormier, donc président de la FIL et directeur général de TDIS. Merci Renaud.
Merci au groupe Isimo pour l'invitation, évidemment.
Et merci Marion Suquet, je rappelle que vous êtes secrétaire général, directrice Isimo Invest et donc vice-présidente de la FIL. On se retrouve en tout cas tous ensemble et très bientôt pour un prochain numéro d'Isimo Le Mag.
Isimo Le Mag, une émission proposée par le groupe Isimo. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.